Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Pour le faire aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur un livre qui s'intitule « Capital et idéologie », un très gros livre, près de 1200 pages de texte, dont vous êtes l'auteur, Thomas Piketty, bonjour.
Bonjour.
Thomas Piketty, vous êtes certainement l'économiste français le plus renommé à travers le monde par les travaux sur les inégalités que vous menez au sein de l'École d'économie de Paris, dont vous êtes l'un des fondateurs, par le succès phénoménal de votre précédent livre qui s'était vendu à quelques 2,5 millions d'exemplaires dans le monde, un best-seller qui remonte à 2013, intitulé « Le capital au XXIe siècle », qui dénonçait par exemple la très forte hausse des inégalités aux États-Unis à cause des rendements que vous jugez excessifs du capital. Le nouveau livre qui vous amène aujourd'hui à nous rendre visite s'appelle « Capital et idéologie », je viens de le dire. Il est publié aux éditions du Seuil. Pour le résumer d'une phrase, ce qui est très très ambitieux de ma part, je dirais qu'il s'applique à démontrer que les inégalités que nous subissons aujourd'hui ne sont pas le fruit du hasard, mais de principes supérieurs que vous qualifiez d'idéologiques. Nous allons feuilleter ensemble donc ces 1200 pages, en compagnie également des correspondants de RFI, Noé Auché-Baudin en Afrique du Sud, Sébastien Farcy en Inde, et avec Ariane Gaffuri du service économique de RFI, ici à Paris. D'abord, une question d'actualité, Thomas Piketty. Ce qu'on appelle le prix Nobel d'économie a été attribué lundi dernier à trois économistes, dont la française Esther Duflo. Tous trois travaillent sur l'économie du développement, sur la manière de réduire la pauvreté, en s'appuyant sur des démonstrations expérimentales. J'imagine que cette récompense vous réjouit.
Oui, ça me réjouit énormément. Je connais très bien Esther Duflo, Abhijit Banerjee, Michael Kremer. Tous les trois ont fait un travail formidable. Et c'est vrai que par rapport à tous les prix Nobel qu'on a habituellement, je dirais que celui-là est le plus justifié, le plus intéressant qu'on ait eu depuis très longtemps, si ce n'est plus toujours. Bah, c'est-à-dire, il y avait une mauvaise habitude des jurés du prix Nobel d'économie, de la Banque de Suède, à décerner des prix très techniques avec des personnes qui faisaient des contributions, qui se voulaient très théoriques, des modèles théoriques, des modèles économétriques et pas beaucoup de chair sociale, et là il y a de la chair. Et il y a aussi, je veux dire qu'on a beaucoup parlé des méthodes de aléatoires d'évaluation des luttes contre la pauvreté, mais Abhijit Banerjee notamment a fait également des travaux historiques sur les réformes agraires en Inde qui à mon avis sont au moins aussi intéressantes que les dispositifs aléatoires qui sont intéressants mais qui permettent pas de remonter dans l'histoire et qui ne permettent pas d'évaluer. Vous voyez, on va pas faire des réformes agraires aléatoires, on est obligé de se baser sur l'histoire.
Aléatoire, ça veut dire prendre des échantillons, en quelque sorte, de villages.
De villages.
Certains auxquels on applique des réformes, d'autres non. Et on voit la relation entre les deux.
Voilà, donc Esther Duflo, Abhijit Banerjee, Michael Kremer ont beaucoup développé cette méthode et c'est souvent très utile, hein, je veux dire. Mais ça ne permet pas de tout tester parce qu'il y a des choses qu'on ne va pas tester de façon aléatoire et il faut se reposer sur l'histoire. Parce que l'histoire elle-même est un répertoire d'expériences qui ne sont pas aléatoires, évidemment, mais qu'on peut évaluer et ils ont aussi tous beaucoup travaillé là-dessus, notamment Abhijit Banerjee.
Et vous aussi, Esther Duflo est de la même génération que vous, mais ses travaux sont très différents des vôtres. Elle s'appuie sur des expériences de terrain aléatoires, alors que vous faites parler des montagnes de documents. Vous remontez dans votre premier livre au XVIIIe siècle, dans celui qui nous amène ici, vous remontez au bas Moyen-Âge, c'est-à-dire il y a plus de 1000 ans. Ce sont deux écoles de travail très différentes, ou est-ce qu'il y a des points communs ?
Il y a des points communs, et je pense que c'est les deux démarches sont totalement complémentaires, et d'ailleurs certains chercheurs, comme Abhijit Banerjee, ont pratiqué les deux, et moi j'ai été plusieurs fois les suivre, Abhijit et Esther, dans des expériences dans des villages en Inde, pour voir vraiment comment ça fonctionnait, leurs expériences de terrain, et je trouve que cette démarche vraiment très complémentaire de la démarche historique qui est la mienne. C'est vrai que moi, j'ai tendance à privilégier les enseignants de l'histoire parce que je pense que il y a vraiment des enseignements du XXe siècle, du XIXe siècle, mais aussi des siècles précédents, qui sont des répertoires d'action pour l'avenir, qui y a jamais des leçons à appliquer directement. Les contextes sont toujours différents, mais une analyse critique de toutes ces expériences historiques, je pense, est une source d'enseignement inestimable pour l'avenir.
Thomas Piketty, dans la conclusion de votre livre, vous citez un extrait très célèbre du manifeste du Parti communiste de Karl Marx et de Friedrich Engels en 1848, un livre que jadis on lisait beaucoup, peut-être moins aujourd'hui. L'histoire de toute société, disait ces deux philosophes, n'a été que l'histoire de la lutte des classes. Vous reformulez cette phrase, vous la corrigez en écrivant « L'histoire de toute société n'a été que l'histoire de la lutte des idéologies et de la quête de justice ». Donc, selon vous, l'histoire des sociétés est plus marquée par des luttes d'idées que par la lutte pour l'enrichissement des uns et la survie des autres. Alors moi, j'ai un peu de mal à être convaincu de ça. Est-ce que les gens qui se battent pour la préservation de leur régime de retraite dans les rues de Paris ou contre l'enrichissement des milliardaires aux États-Unis, est-ce que ces gens-là se battent pour des idées ?
Ce que je veux dire par là, c'est que les luttes de classe sont nécessaires, mais pas suffisantes si elles ne débouchent pas sur des transformations des idéologies. Et la conflictualité sociale en tant que telle peut avoir des débouchés très différents. Et donc il faut s'intéresser aux débouchés, il faut s'intéresser aux formulations en termes de comment on organise la société idéale, le régime de propriété, le système fiscal, le système éducatif. Et la position sociale de chacun, même si elle est très importante, ne suffit pas à déterminer une théorie de la propriété, une théorie de la frontière. Et repousser à l'après-crise ou à l'après-révolution le débat, la délibération sur comment une autre société devrait être organisée, comment un autre système économique devrait être organisé, c'est très dangereux. On a vu dans l'histoire des personnes qui pensaient que voilà, c'est après la révolution, on verrait, et parfois on a vu des choses qui n'étaient pas à la hauteur des promesses d'émancipation, qui étaient celles dans lesquelles on croyait avant les révolutions. Donc je pense que c'est très important aujourd'hui de prendre au sérieux le fait que les différents discours idéologiques qui sous-tendent l'inégalité dans les différentes sociétés sont toujours plus complexes et plus sophistiqués que simplement un simple voile derrière lequel d'éternelles classes dominantes justifieraient leur domination. Il y a toujours de l'hypocrisie dans ces discours idéologiques, mais il y a toujours plus que de l'hypocrisie. C'est-à-dire, il y a toujours un fond, au moins de plausibilité, si ce n'est de vérité, qu'il faut prendre au sérieux si on veut justement mieux les dépasser, et tout en étant conscient aussi des limites des idéologies qu'on pourra mettre à la place.
Quand Emmanuel Macron parle des premiers de cordée et de l'importance et de l'utilité d'avoir des premiers de cordée, c'est de l'idéologie ?
Alors, c'est un discours idéologique, mais moi je veux vraiment dire très clairement que j'essaye dans mon livre d'employer le mot idéologie d'une façon non péjorative. C'est-à-dire que je pense que jamais personne n'aura la vérité ultime sur le régime de propriété idéal, le régime fiscal idéal, le régime éducatif idéal. Donc, il y aura toujours du désaccord idéologique sur la société, juste l'organisation de la société. En disant ça, je pratique pas non plus un relativisme généralisé en me tenant comme ça à l'écart confortablement de tous ces systèmes de croyances. Je prends position dans ce livre parce que je pense qu'il est possible, sur la base des expériences historiques, non pas de dire voici comment organiser la société idéale, mais quand même de cadrer le débat. Et en l'occurrence, ce discours idéologique sur les premiers de cordée, je pense, peut être assez facilement démonté sur la base des expériences qu'on a à notre disposition, des évolutions récentes sur les dernières décennies, notamment l'explosion des inégalités aux États-Unis et la très faible croissance, alors que la promesse réaganienne annonçait une dynamisation de l'innovation et de la croissance qui allait bénéficier à tous, qu'on n'a absolument pas vu. Donc, je pense que les expériences historiques permettent un peu de préciser les termes du débat, mais en même temps, moi, les conclusions que je tire à la fin, je prétends pas que ce soit les seules conclusions possibles, et je pense que c'est à chacun d'écrire les pages suivantes.
Vous avez une grande ennemie que vous pourfendez tout au long de ce livre, c'est ce que vous appelez l'idéologie propriétariste. Qu'est-ce que c'est que cette idéologie ?
Alors, il se trouve que la Révolution française développe une idéologie avec l'idée d'une égalité d'accès aux droits de propriété. Mais il faut partir de l'aspect positif avant d'arriver à l'aspect négatif. L'aspect positif, c'est que par rapport à des sociétés d'ordre plus anciennes qui classaient les gens suivant l'appartenance à la noblesse, à la clergé, à différents statuts qui donnaient lieu à différents droits, il y a un idéal d'égalité aux droits et notamment aux droits de propriété. Le problème, c'est qu'en pratique, là où ça devient une idéologie propriétariste, c'est qu'on se met à en faire une nouvelle religion. C'est-à-dire, on se met à sacraliser la propriété dans le sens où les droits de propriété acquis dans le passé, quelle que soit leur ampleur et quelles que soient les injustices qui parfois ont mené à acquérir ce droit de propriété, deviennent sacralisés, on refuse complètement de les remettre en cause, ce qui veut dire aussi qu'on refuse la diffusion de la propriété. C'est-à-dire, moi, je pense que la propriété privée fait évidemment partie de la solution pour organiser la vie sociale, pour coordonner les actions individuelles, à condition qu'elle reste d'une ampleur raisonnable. Et beaucoup de personnes se disent alors, oui, mais qui va décider quelle est l'ampleur raisonnable ? Eh bien, la délibération démocratique, sur la base des expériences historiques, j'en suis convaincu, peut réussir à nous aider à déterminer quelle est cette ampleur raisonnable et quelle est la circulation de la propriété qui permet à toute la société, finalement, de tirer parti de ce qu'elle peut nous apporter. Or, au XIXe siècle, les groupes dominants se refusent à ouvrir ce qu'on considère comme une boîte de Pandore de la propriété privée, de peur de ne pas savoir où s'arrêter, et ça conduit à des choses désastreuses.
Quand vous dites ouvrir la boîte de Pandore de la propriété privée, c'est-à-dire qu'on sacralise cette propriété, qu'on refuse d'examiner comment on pourrait la réduire.
Comment on pourrait la redistribuer. Donc, par exemple, au moment de la Révolution française, vous avez des débats très intéressants sur la question des corvées. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de paysans au XVIIIe siècle en France qui continuent de devoir 1, 2, 3, parfois 4 jours par semaine de corvée à leur seigneur. Alors, il y a deux positions au moment de la Révolution française. Il y a une position qui consiste à dire, mais regardez, ça montre bien que les traces du servage ancien et des appropriations violentes des siècles reculés sont toujours bien présentes. Il faut abolir ces corvées et que les paysans puissent travailler sur leurs terres sans rien devoir au seigneur. Mais d'autres voix disent autre chose, disent, non mais attendez, finalement, ces corvées, c'est simplement une forme de loyer. Et si on commence à remettre en cause ces paiements aux propriétaires, est-ce que ce ne sont pas l'ensemble des droits de propriété et l'ensemble des loyers qui vont être remis en cause? Et finalement, c'est la vision dominante, et quand même très conservatrice, qui s'impose, c'est finalement de transformer les anciens droits féodaux sous forme de corvées en droits propriétaristes nouveaux sous forme de loyers. Et en fait, non seulement on ne réduit pas les inégalités, mais d'une certaine façon, on les rigidifie, puisqu'on leur apporte la force d'un système de droit centralisé, où le droit de propriété est garanti de façon extrêmement stricte, de façon aussi souvent très patriarcale, c'est-à-dire que c'est quand même le droit du père de famille, de l'homme blanc à l'échelle internationale. Donc le droit de propriété qui se développe au XIXe siècle ne correspond pas vraiment à l'idéal d'émancipation qu'on a cru un moment voir se développer au début de la Révolution française.
On va faire un bond dans les temps, on va passer à aujourd'hui. Une illustration possible de cette idéologie propriétariste dont vous parlez abondamment dans votre livre, c'est la montée des prix de l'immobilier dans les grandes métropoles mondiales. On va regarder ce qui se passe autour de nous ici à Paris avec un reportage Écho d'ici Écho d'ailleurs, signé Ariane Gaffury dans les agences immobilières parisiennes.
On a une belle terrasse aménagée avec une petite mezzanine. C'est absolument magnifique.
Oui, mais ça permet surtout d'avoir la vue sur Montmartre. Et puis tout Paris, on a une vue à 360.
Annabelle, 46 ans, habite un duplex lumineux en plein cœur de Paris.
L'idée de cet appartement, on cherchait à vraiment vivre comme une petite maison, mais sous les toits, on voulait avoir une vue. Alors ici, il y a 130 mètres carrés. C'est un appartement qu'on a acheté au prix du marché d'il y a 3 ans, donc c'était beaucoup moins élevé qu'aujourd'hui, mais quand même déjà dans une grosse fourchette entre 1 million et 1 million 5. Hein. On a voulu se faire plaisir, habiter plein centre de Paris. Il y a des très beaux immeubles dans Paris, il y a une jolie vie de quartier avec différents villages. On a vu aussi le côté investissement. On a fait une bonne affaire puisque on a rentabilisé notre investissement déjà au bout de 3 ans.
Comment est-ce qu'on finance un appartement à ce prix-là?
Nous, on a eu la chance en fait de commencer à investir très jeune dans des tout petits appartements, petits studettes qu'on a revendus. À chaque fois, on a racheté plus grand. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait un bon pouvoir d'achat qu'on n'aurait pas eu du tout si on devait investir de rien aujourd'hui, même avec des bons revenus. C'est ce que je donnerais comme conseil à mes enfants plus tard, parce que c'est comme ça qu'on se constitue un patrimoine.
Ira Immobilier Wagram, bonjour.
Oui. Investir pour revendre et acheter plus grand, c'est en général la technique adoptée par les clients de l'agence immobilière ERA Wagram, située dans un quartier chic du 17e arrondissement. Gad Fitoussi, directeur.
Principalement, on va être sur des produits pierre de taille, immeuble haussmannien, fin 19e, début 20e. On est autour des 12 000 euros le mètre carré. Aujourd'hui, les personnes qui achètent les types de produits qu'on a à proposer sont souvent des gens qui ont soit bénéficié de ces achats-reventes cumulatifs qui leur ont permis d'acheter aujourd'hui un appartement qui vaut extrêmement cher, soit des gens qui reviennent du Brexit, des traders, des brokers en bourse, qui ont un pouvoir d'achat assez important et qui n'étaient pas propriétaires préalablement sur le marché parisien.
Aujourd'hui, c'est un marché vraiment de pénurie à Paris parce qu'on ne construit pas.
Thierry Delsalle est porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. On le rencontre au coup d'envoi de la semaine de l'immobilier.
Et pour autant, vous avez beaucoup d'acquéreurs qui veulent à tout prix rester à Paris. Donc aujourd'hui, les prix augmentent et on a constaté forcément un changement dans la population des propriétaires. Paris se boboïse. Sachant que quand même, à Paris, c'est une ville de locataires, vous avez 60% de locataires. Donc ces 40% de propriétaires font partie de ce qu'on appelle la catégorie socio-professionnelle plus, à savoir que ce sont des cadres, des artisans, des professions intermédiaires. Souvent, c'est le couple qui doit faire partie de ces CSP+, pour tout simplement pouvoir affronter ces emprunts et ces échéances d'emprunt.
Des prix qui vont continuer à grimper à Paris avec un risque de bulle prête à éclater. C'est en tout cas ce que craint la banque suisse UBS.
Un reportage signé Ariane Gaffiori, édifiant Thomas Piketty.
Oui, c'est édifiant parce que c'est vrai que ces prix complètement fous de l'immobilier à Paris, mais dans beaucoup d'autres grandes villes en France et dans le monde, sont l'une des expressions les plus visibles de la montée des inégalités. C'est-à-dire que ça montre que vous avez des personnes dont les revenus tout en haut de la distribution peuvent nourrir une augmentation des prix sans limite qui, de fait, exclut totalement de l'accès au logement ou de l'accès à la propriété une immense partie de la population qui travaille, qui a des salaires, qui a fait des études, qui a eu des diplômes et qui se trouve complètement exclue du jeu par rapport à ceux qui ont soit des super rémunérations dans la finance ailleurs, soit du patrimoine familial, soit les deux en même temps. Et tout le reste se trouve dans un monde un peu insensé où on travaille, où on a l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait et puis on n'a pas accès aux biens de base qui est le logement. Donc là, et ça montre que la solution, elle passe par une forte réduction des inégalités. C'est-à-dire que pour calmer ces prix complètement fous, eh ben, il faut calmer le pouvoir d'achat de ceux qui alimentent cette bulle.
Alors, peut-être avez-vous fait attention à ce que disait Ariane Gaffiori, ou un des agents immobiliers qui était interviewé, il disait que les immeubles, les appartements qu'ils vendaient, c'était des immeubles haussmanniens, fin du 19e, début du 20e. Or, cette période-là, c'est précisément celle dont vous dites dans votre livre qu'elle a marqué l'apogée du propriétarisme.
Oui, c'est vrai. Alors, mais entre-temps, il y a eu une phase de réduction des inégalités importante entre 1914 et 1950. Et ce n'est que depuis les années 80-90 que, à la fois, les inégalités et les prix de l'immobilier sont remontés à des niveaux inouïs. Mais c'est vrai que dans la société d'avant 1914, notamment à Paris, les inégalités ont été à un niveau phénoménal. Juste pour vous donner une idée concrète, à l'époque, la plupart des immeubles haussmanniens à Paris n'étaient même pas dans le cadastre découpés en appartements individuels. C'est-à-dire que soit vous possédez tout un immeuble, soit vous possédez rien du tout. Et on commençait à découper dans le cadastre les appartements individuels parce qu'il y avait de plus en plus de personnes qui soit voulaient un appartement individuel, soit ne pouvaient plus se permettre d'avoir tout un immeuble. Mais ça, c'est à partir de l'entre-deux-guerres avec la réduction des inégalités. Mais auparavant, ça avait été pensé comme un système où, voilà, soit vous avez un immeuble, soit vous avez rien du tout. Donc, oui, c'est un autre monde. On n'est pas encore revenu à ce monde-là, fort heureusement, mais il y a des éléments qui vont dans cette direction.
Alors aujourd'hui, vous parlez d'idéologie néo-propriétariste. Quelle est la nuance ?
Alors, la différence, c'est qu'entre-temps, il y a eu justement une forte période de réduction des inégalités au XXe siècle, qui s'est faite parfois dans les violences, à la suite des guerres mondiales, de la révolution bolchevique, de la crise des années 30, mais qui a donné lieu, quand même, dans la période 1950-1980, à un système d'état social, de sécurité sociale, de contrôle des loyers, de réduction des inégalités de propriété, qui a pas mal changé les choses. À partir des années 80-90, c'est vrai qu'il y a une rupture qui s'opère avec la chute du communisme soviétique, conduit à une nouvelle phase, disons, de désillusion par rapport à l'idée d'une économie juste, d'un dépassement du capitalisme, qui a un effet jusqu'à aujourd'hui. La rupture réaganienne dans les années 80 a aussi cet effet. Donc ce sont des éléments, là encore, politiques, idéologiques, qui conduisent à une forme de néo-propriétarisme qui s'appuie notamment sur une libre circulation des capitaux à l'échelle européenne, puis à l'échelle internationale, sans aucune régulation collective en termes de fiscalité commune, d'échange d'informations. Alors on essaye aujourd'hui, maintenant au niveau de l'OCDE, à essayer de réparer les dégâts avec 30 ans de retard en ayant des échanges automatiques d'informations entre pays, mais ça reste sur la base du volontariat, ça marche très mal, parce que depuis les traités de départ qui ont été négociés dans les années 80, notamment dans le cas du traité de Maastricht en Europe en 1992, propose la circulation du capital, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Moi, je suis internationaliste en politique comme en économie, mais à condition d'avoir des régulations collectives pour savoir qui possède quoi où. C'est-à-dire que là, on a institué un droit quasi sacré, un peu comme au 19e siècle, de pouvoir faire fortune dans un pays en s'appuyant sur ses infrastructures, son système éducatif, tout son système légal, et ensuite appuyer sur un bouton, déplacer ça où on veut, sans que personne ne puisse savoir qui possède quoi où. Et après, on arrive 30 ans plus tard, et on dit, ah bah c'est ballot, on sait pas qui possède quoi où, donc on est obligé de faire payer les plus pauvres, parce que eux, au moins, on sait où ils sont. Mais vous voyez, c'est un système à faire détester la mondialisation, et ça conduit aujourd'hui en partie aux dérives identitaires et aux dérives très nationalistes parfois. Ça a aussi un coût très élevé sur le reste du monde, sur les pays pauvres, notamment en Afrique, pour qui vous imaginez bien que si déjà les pays les plus riches n'arrivent pas avec leurs administrations à suivre qui possède quoi entre la France et l'Allemagne et le Luxembourg, vous imaginez bien que pour des administrations fiscales de pays pauvres, essayer de développer un impôt juste et essayer de développer, de construire la confiance dans l'État, la légitimité dans son système fiscal dans des conditions pareilles, comment voulez-vous y arriver ?
Thomas Piketty, nous parlons ensemble de votre livre « Capital et idéologie » paru aux éditions du Seuil. On va remonter un peu dans le temps. Il y a une désincarnation très violente de cette idéologie propriétariste que vous dénoncez. C'est l'esclavage et qui s'est illustré ce caractère abusif au moment de la dénonciation de cet esclavage et des problèmes que cela a posé aux propriétaires d'esclaves, entre guillemets.
Un phénomène effectivement assez étonnant et mal connu, en tout cas insuffisamment connu, c'est le fait qu'au moment des abolitions de l'esclavage, le Royaume-Uni, la France, les principales puissances esclavagistes de l'époque vont se mettre à compenser, non pas les esclaves pour les dommages subis, mais les propriétaires d'esclaves pour leur perte de propriété. Des travaux récents que je décris dans mon livre ont par exemple montré comment la loi de 1833 au Royaume-Uni qui abolit l'esclavage dans les îles esclavagistes britanniques va faire une compensation intégrale des propriétaires d'esclaves. Et on a la même chose en 1848 en France, au moment de l'abolition de l'esclavage à la Réunion, à la Martinique, à la Guadeloupe. Des intellectuels libéraux comme Tocqueville, dans les années 1840, disent « bien sûr, il faut compenser les propriétaires d'esclaves, parce que si on ne le fait pas, alors on va remettre en cause le droit de propriété en général ». Et d'ailleurs, un de ces arguments, c'est de dire « que va-t-on faire de quelqu'un qui possédait des esclaves dans le passé ?» Qui les a vendus pour s'acheter un château dans le Bordelais ou un immeuble haussmannien à Paris, par exemple, lui, vous allez bien être obligé de lui demander des comptes aussi. Et de fait, il aurait fallu demander des comptes aussi à ces personnes-là. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est que si on se repose la question aujourd'hui, un siècle et demi plus tard, deux siècles plus tard, quelle aurait été une abolition juste? Il aurait fallu d'abord des compensations aux esclaves et non pas aux propriétaires d'esclaves. Et Condorcet, il y a quand même certains voyaient ça. C'est-à-dire Condorcet, en 1780, il proposait une pension pour les vieux esclaves et pour les plus jeunes, un accès à la terre pour pouvoir enfin vivre de son travail. Sauf que pour financer tout ça, il aurait fallu effectivement mettre à contribution non seulement les propriétaires d'esclaves du temps présent, mais aussi tous ceux qui s'étaient enrichis avec des propriétés industrielles, immobilières, financières, grâce à ce système. Et donc, oui, c'est vrai, Tocqueville avait raison d'avoir peur, dans le sens où il aurait fallu une certaine forme de remise en cause de systèmes de propriété privée, ou en tout cas des propriétés privées très importantes. Il aurait fallu penser une redistribution de la propriété, non seulement pour compenser les esclaves qui accèdent à la terre, mais pour les pauvres en général. Et donc, ça aurait conduit assez loin. Et donc, autour de la question de l'esclavage, se jouait quelque chose, autour de cette forme extrême d'inégalité, la plus extrême qu'on puisse imaginer, se jouait un enjeu autour de la question de la remise en cause de la propriété, et les choix qui ont été faits, alors, en l'occurrence, étaient très conservateurs.
Et ça a des conséquences encore aujourd'hui, parce que vous racontez par exemple que la fortune de la famille de l'ancien Premier ministre britannique David Cameron, fortune qu'il a toujours, donc lui,
oui,
est issu directement de ces indemnisations de propriétaires d'esclaves.
Alors c'est ce dont on s'est rendu compte quand ce livre d'historien britannique est paru il y a quelques années, où ils ont utilisé toutes les archives parlementaires britanniques, parce qu'à l'époque les gens n'avaient pas honte de tout ça, ils trouvaient ça parfaitement normal, et ce qu'ils ont trouvé dans les archives parlementaires, c'est qu'effectivement un ancêtre d'un cousin de David Cameron avait reçu l'équivalent, les indemnisations moyennes pour les propriétaires d'esclaves en argent d'aujourd'hui, c'est de l'ordre de 50 millions de livres sterling, hein, donc c'était des plantations importantes, hein, des personnes qui possédaient des centaines, parfois des milliers d'esclaves, et cet argent s'est transmis, et on trouverait la même chose, les archives n'ont pas été publiées pour ce qui est de la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, mais on trouverait sans difficulté des familles qui ont reçu des compensations pour les compenser de leur perte de propriété esclavagiste, et qui ont réinvesti l'argent dans d'autres secteurs, le tourisme, des terres, et donc ce sont des inégalités dont les traces sont toujours présentes. Le cas d'Haïti, oui, est un cas encore plus fort, puisque, comme vous savez, donc Haïti, c'est la première révolte d'esclaves qui a réussi. Donc au début de la Révolution française, d'une certaine façon, les esclaves haïtiens sont ceux qui ont pris le plus au sérieux le message d'émancipation de la Révolution française. Ils ont fait une révolte. La France a été obligée d'accepter l'indépendance d'Haïti, finalement, en 1825, mais à la condition que Haïti rembourse à la France, pour le prix de sa liberté, une énorme dette publique qui a été fixée en 1825 sous la menace du canon français qui menaçait d'envahir l'île, a été fixée, alors des travaux récents, là encore, que je décris dans mon livre, ont montré que c'était de l'ordre de 3 années de production nationale d'Haïti de l'époque, on dirait aujourd'hui 300% du PIB, donc une somme gigantesque,
PIB, ouais,
qui peut pas être remboursée par définition en une seule fois. Des banquiers français, évidemment, ont proposé de refinancer tout ça, moyennant taux d'intérêt, et tout ça, pendant tout le 19e siècle et jusqu'au milieu du 20e siècle, a été repayé par Haïti a grevé le budget d'Haïti et a aussi créé une situation politique extrêmement difficile.
Mais vous dites que Haïti a payé cette dette jusqu'en 1950, c'est-à-dire hier.
Hier, c'est-à-dire que la dette, alors les banquiers français ont fini par la céder à des banquiers états-uniens dans les années 20, puisqu'à l'époque les États-Unis avaient aussi des intérêts financiers et occupaient en partie Haïti, mais bon, pour finir, les banquiers français ont récupéré de l'argent des banquiers américains dans les années 20, qui eux-mêmes ont été repayés jusqu'aux années 50. Donc on peut dire que oui, jusqu'aux années 50, pendant presque un siècle et demi, Haïti, pour le prix de sa liberté, a été obligé de payer, alors que la compensation aurait dû se faire dans l'autre sens, puisque pendant tout le XVIIIe siècle et des siècles précédents, le niveau d'extraction par les propriétaires d'esclaves français à Saint-Domingue était inouï.
Alors Saint-Domingue, c'était l'entièreté de l'île.
Voilà, et on prend le nom d'Haïti au moment de l'indépendance en 1804. Et donc, on peut estimer qu'environ 70% de la population, de la production de Saint-Domingue était extraite par les colons, les propriétaires d'esclaves, qui ramenaient les profits à Paris. Donc,
il faut rappeler qu'à l'époque, Haïti était un gros producteur de café, de sucre, de cacao.
C'était la plus riche de toutes les îles esclavagistes françaises et britanniques, d'ailleurs. Il y avait plus de 90% d'esclaves qui arrivaient avec une mortalité terrible au XVIIIe siècle. Donc, c'était vraiment la caricature du système esclavagiste le plus cruel, le plus brutal. Et aussi le plus profitable pour les propriétaires français. Et la façon dont ensuite, pendant un siècle et demi, l'île d'Haïti a dû payer à la France pour avoir voulu être libre, et la façon dont aujourd'hui on refuse de regarder en face cette question.
Parce que pour vous, la situation délabrée, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'économie haïtienne et de son système politique, on voit tous les problèmes politiques que rencontre ce pays, c'est la conséquence directe de cet acharnement des pays européens ou américains à avoir fait payer cet endettement.
Bah oui, parce que au-delà des sommes payées, si vous voulez, c'est toute la question de l'insertion internationale d'Haïti après l'indépendance qui s'est posée. Par exemple, le plus proche voisin, les États-Unis, vous imaginez bien qu'au 19e siècle, ils avaient aucune sympathie particulière pour les révoltes d'esclaves, donc ils voulaient pas entendre parler de relations économiques avec Haïti. Donc c'est toute l'insertion internationale d'Haïti qui a été compromise. Et puis d'un point de vue politique interne, vous avez eu un cycle interminable d'un véritable chaos politique lié au fait que c'est très difficile d'accepter de repayer de telles sommes. Et donc, inévitablement, vous avez d'un côté des forces politiques qui cherchent l'apaisement en disant, écoutez, on n'a pas le choix et sinon on va se faire envahir, donc il faut repayer. De l'autre, des forces politiques qui disent, mais comment, vous êtes vraiment des lâches et des traîtres, nous allons nous battre et nous n'allons pas repayer. Sauf qu'à la fin des fins, le plus fort militairement, c'est la France et donc il faut repayer. Et donc, les relations de propriété, de façon générale, sont très difficiles à organiser de façon apaisée, y compris quand c'est à l'intérieur d'un même pays. Mais quand ces relations de propriété se font au niveau international et de façon aussi injuste, c'est presque impossible pour une communauté politique d'en débattre sereinement, démocratiquement, et de trouver des solutions apaisées.
Alors, on a parlé, sans en parler, des sociétés coloniales. Vous dites qu'elles étaient très inégalitaires. Le colonialisme a disparu, mais les inégalités sont toujours là. Exemple avec l'Afrique du Sud, officiellement depuis 25 ans, l'apartheid n'est plus de mise, mais cela reste un pays toujours inégalitaire. La majorité des ressources est encore aux mains de la minorité blanche, laissant plus d'un habitant sur deux sous le seuil de pauvreté. Et les mécanismes de cette reproduction sociale sont nombreux, à commencer par le système d'éducation qui reste très discriminatoire. Un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Noé Hoché-Baudin à Johannesburg.
Nous sommes l'un des pays les plus inégalitaires du monde. Donc, le système d'éducation est aussi inégalitaire.
Linda Guricic est coordinatrice à Sainte-Marie's, une école privée bien connue des quartiers cossus de Johannesburg. Sainte-Marie's est ce que l'on appelle une école modèle C, l'une des 1600 écoles privées sur les 30 000 d'écoles sud-africaines, avec même un baccalauréat différent des établissements publics.
En Afrique du Sud, nous avons le bac pour les écoles privées et celui du gouvernement. Il y a une grande différence entre les deux. Pour les écoles privées, le niveau requis est bien plus élevé que le bac public.
Ici, les frais de scolarité sont de minimum 10 000 euros par an, les infrastructures flambant neuves et les résultats au bac de 100% de réussite depuis plus d'une décennie.
À l'école Sainte-Marie, on a entre 26 et 28 filles par classe, alors qu'à Alexandra, la plupart des classes comprennent plus de 50 élèves.
Alexandra, c'est le township le plus pauvre de Johannesburg. Ici, tous les collèges sont publics et les résultats catastrophiques. Farhanaz Veryava est responsable de l'ONG Section 27.
86% des élèves ne sont pas capables de lire proprement en CM2 à 11 ans. La plupart viennent des écoles publiques, autrefois laissées de côté. Plus l'établissement manque de moyens, plus les résultats sont mauvais. Ce qui signifie que l'on prolonge les inégalités de l'apartheid et que l'on reproduit les mêmes classes sociales.
Selon elle, tout change pour que rien ne change.
Ce qui était un système d'éducation divisé racialement est devenu un système d'éducation divisé par l'argent. Les enfants les plus riches sont toujours dans les meilleures écoles, même si officiellement elles sont ouvertes à tous.
Une bonne éducation est encore un luxe, donc sur 100 élèves qui commencent l'école primaire aujourd'hui, 37 obtiendront leur bac et seuls 6 accéderont finalement à un diplôme universitaire, car les frais d'université sont colossaux pour beaucoup. Teboho Motivi avait mené les manifestations pour une éducation gratuite en 2015.
Les frais augmentent tous les ans, parfois de 10%. Les étudiants qui viennent de milieux désavantagés ne peuvent pas payer. Donc on réclamait une éducation gratuite, qui signifie que vous ne payez pas de frais du tout.
Le prix à l'année de son université est de 7000 euros, peu importe la situation financière des étudiants.
Tous les ans, vous voyez beaucoup d'étudiants lâcher l'affaire parce qu'ils ont faim, parce qu'ils n'ont pas d'endroit pour dormir, car tout cela est très cher. Un étudiant doit manger, payer des livres, trouver un logement et bien sûr payer les frais. Comment faire quand on a une mère qui ne gagne que 300 euros par mois ?
Fin 2017, l'ancien président Jacob Zuma avait annoncé une éducation complètement gratuite pour les plus pauvres sud-africains. Deux ans après, l'annonce ne s'est toujours pas matérialisée.
Un reportage signé Noé Hochet-Baudin, Johannesburg. Thomas Piketty, vous connaissez l'Afrique du Sud, vous vous y êtes rendu à plusieurs reprises. Est-ce que ce qui structure votre livre, c'est la démonstration selon laquelle ce qui détermine le niveau des inégalités, c'est avant tout la capacité politique et institutionnelle des sociétés à la justifier et à la structurer. Est-ce que vous diriez que l'ANC, qui est au pouvoir depuis de longues années maintenant, a fait preuve d'une capacité idéologique, politique et institutionnelle pour justifier ces inégalités? Parce que c'est une société inégalitaire dirigée par l'ANC qui, à l'origine, voulait lutter contre ces inégalités, remettre les Noirs dans le système, les Noirs sud-africains.
Le problème, c'est que l'ANC, au moment de la fin de l'apartheid, n'a pas organisé la redistribution qui aurait fallu. Enfin, je dis pas que c'est simple, mais il n'y a pas eu, par exemple, il n'y a pas eu tout de réforme agraire. Il n'y a pas eu de véritable redistribution des ressources fiscales pour financer les écoles. Il n'y a pas eu cette volonté de redistribution. Un peu comme, finalement, on parlait de la Révolution française tout à l'heure, on a reposé sur l'égalité des droits formels. On s'est dit, voilà, l'égalité formelle des droits va suffire à conduire à l'égalité tout court. Sauf que, en fait, non, si on veut aller à l'égalité réelle des droits, alors il faut financer l'éducation. Donc il faut s'intéresser aux questions d'impôts, de répartition de la charge fiscale, sur comment on va financer l'école pour tous, gratuitement. Il faut redistribuer la propriété. Je voudrais dire que rien de tout ça a été fait, et la fin de l'apartheid, bon, c'était il y a seulement 25 ans. Or, pendant un siècle, et même en fait plusieurs siècles auparavant, vous aviez un système qui n'était plus l'esclavage, mais qui était un système où on parquait.
Qui n'était pas encore l'apartheid? Officiellement.
Alors, qui n'était pas officiellement l'apartheid, mais qui était déjà très discriminatoire. Et dans la phase qui est vraiment de l'apartheid de 1948, mais en fait avec les lois de 1910, à l'époque britannique, qui déjà organise le territoire, divise le territoire entre des zones pour les Noirs, des zones pour les Blancs, concrètement, vous avez 90% de la population qui est parquée dans 10% du territoire, qui a aucun droit de circulation, qui n'a pas le droit à la propriété dans le reste du territoire. Toutes les ressources sont, les terres en particulier, les ressources minérales sont possédées par une toute petite minorité blanche. Donc, et ça, on n'a pas du tout redistribué après coup, alors que c'était le résultat d'un système légal complètement inique, basé sur une discrimination absolument extrême. Et ça, on a dit, bon, bah, il y aura plus de système d'apartheid, mais on laisse les propriétés à ceux qui les avaient acquis dans ce système complètement injuste. Alors que d'autres sociétés ont su. Alors, dans des contextes différents, mais vous avez des sociétés européennes en Allemagne ou asiatiques, au Japon, en Corée après la Seconde Guerre mondiale, qui organisent des réformes agraires pour redistribuer les terres. Vous avez des exemples en Espagne, vous avez d'autres exemples de sociétés. C'est vrai qu'on a l'ANC en Afrique du Sud n'a pas su faire ça. C'est un sujet compliqué, c'est-à-dire que je pense que tout le consensus qui existait autour de Mandela et de la fin de l'apartheid se serait sans doute vite effrité dans les pays occidentaux si on avait commencé à faire des redistributions distribution agraire impressionnante et ambitieuse. En même temps, il aurait fallu le faire. Il y aurait aussi beaucoup de personnes qui auraient soutenu. Mais vous voyez, tout récemment, quand le gouvernement sud-africain a dit, tiens, on pourrait quand même se réintéresser à la question de la réforme agraire et de la propriété des terres issues de l'apartheid, il y avait immédiatement Donald Trump qui envoyait ses tweets pour dire, oh là là, les fermiers blancs sont menacés dans leurs droits de propriété, l'apartheid, c'est des vieilles histoires, tout ça. Je demanderai à mon secrétaire d'État aux affaires étrangères de surveiller tout ça de très près. Donc il faut bien voir que ces enjeux-là que Trump porte toujours avec les ségrégationnistes blancs dans le sud des États-Unis qui pour certains sont restés à la même idéologie ségrégationniste d'avant les années 60 et qui continuent de se sentir une proximité avec les fermiers blancs d'Afrique du Sud. Donc ces enjeux-là n'ont pas complètement disparu. Ouais, bah, on a le passé ne passe pas.
Je voulais vous demander. Vous dites que les inégalités modernes sont héritées de celles issues de l'esclavage et du colonialisme. Comment
c'est un mélange. C'est l'inégalité moderne est un mélange d'archaïsme et de modernité, un mélange de legs du passé et d'inégalités nouvelles. Si on regarde quelles sont les sociétés dans le monde qui sont les plus inégalitaires aujourd'hui, on a notamment l'Afrique du Sud où là le leg de l'apartheid est évident. On a le Brésil où le leg de l'esclavage est évident puisqu'on avait l'abolition de l'esclavage au Brésil a lieu seulement en 1888 et il y avait des parties entières du pays où il y avait encore 30-40% d'esclaves. Et je veux aussi dire que jusqu'aux années 80, jusqu'à la fin des années 80 et la fin de la dictature militaire au Brésil, la population qui n'était pas alphabétisée n'avait pas le droit de vote. Et donc, en pratique, on excluait du droit de vote beaucoup des anciennes populations pauvres en général, pas seulement anciennes esclaves, qui n'ont eu le droit de vote qu'avec les élections des années 90 et l'élection de Lula. Donc, on a un leg inégalitaire dans les ex-sociétés esclavagistes ou basées sur les discriminations raciales qui continuent jusqu'à aujourd'hui.
J'ai l'impression que vous parlez droits de l'homme.
Moi, je suis un chercheur en sciences sociales et je pense que les frontières entre l'économie, l'histoire, la sociologie et les sciences politiques sont pas du tout aussi fermes que ce que certains voudraient faire croire. Je pense que si on veut étudier l'histoire du développement dans ces différentes sociétés, il faut évidemment mêler les approches. Et une des leçons générales de ce livre, c'est que l'inégalité, elle est d'abord politique, idéologique, avant d'être économique ou technologique. Parce que vous voyez bien qu'il y a plein de façons d'organiser la société en termes de répartition de la propriété. Est-ce qu'on redistribue les terres? Est-ce qu'on les redistribue pas? Ce sont des questions qui sont d'abord politiques, qui dépendent des représentations qu'on se fait de la frontière, c'est-à-dire qui fait partie de notre communauté et qui est tellement différent par la couleur de peau, par la religion, qu'on considère qu'il n'a pas à avoir les mêmes droits. Et puis à un moment, ces conceptions changent, parce que ces conceptions, elles sont pas figées, de même que les identités individuelles sont pas figées, elles sont souvent mélangées, mixtes. Il y a des discours derrière qui font finalement tenir des réalités, mais qui parfois aussi parviennent à les remettre en cause.
Alors Thomas Piketty, on parle de votre livre Capital et idéologie, paru aux éditions du Seuil. Un autre pays dont vous explorez l'histoire longuement, vous y consacrez un long chapitre, c'est l'Inde. L'Inde dont vous dites qu'elle joue un rôle central dans l'histoire des régimes inégalitaires, car le système des castes a laissé des traces dans la société contemporaine. L'Inde est une, elle aussi, avec l'Afrique du Sud, une des sociétés les plus inégalitaires qui soit. Le déséquilibre y est même encore plus grand que dans l'Amérique capitaliste. L'un des écueils de cette société indienne, c'est la discrimination entre les castes justifiée par le clergé hindou et qui a traditionnellement empêché les basses castes d'étudier et de s'élever. Pour corriger cela, l'Inde moderne s'est dotée depuis environ 60 ans d'un des premiers systèmes de discrimination positive moderne, vous y faites allusion longuement. Ce système permet entre autres aux anciens intouchables, appelés Dalits, d'entrer plus facilement à l'université et dans l'administration. C'est un reportage éco-dissier-co d'ailleurs, signé Sébastien Farsi à New Delhi.
Lénine Vinober a grandi dans une famille de Dalits de la campagne reculée du Tamil Nadu au sud de l'Inde. Son père était ouvrier, sa mère femme au foyer chargée des 6 enfants. Baptisé catholique, Lénine a pu étudier dans les écoles jésuites jusqu'à sa licence et a ensuite réussi à entrer dans la meilleure université de droit du pays, à New Delhi, où le concours là était moins difficile pour lui. Certaines places sont en effet réservées à des membres de sa communauté, les anciens intouchables.
Je n'aurais pas pu entrer sans ce quota car j'étais trop impressionné par le niveau. Et je n'avais pas l'aisance, le soutien des candidats des autres castes. Eux venaient des familles riches et éduquées. J'ai ensuite réalisé que j'étais privilégié et que je représentais les millions de membres de basse caste qui n'ont encore aucune richesse ni éducation.
Un Indien sur six est Dalit et depuis environ 60 ans, 15% des places leur sont donc réservées dans les universités publiques ainsi que dans l'administration centrale. Un système imparfait cependant, car selon l'UNICEF, seulement un enfant Dalit sur deux finit l'école primaire. Et ceux qui rentrent finalement en faculté peinent à la terminer. Bina Palikal est directrice de l'association pour les droits des Dalits et elle parle du cas de Rohit Vermoula, un étudiant Dalit qui s'est suicidé.
Il n'avait pas reçu sa bourse pendant un an. Or, elle est essentielle pour la survie de ces étudiants Dalits et pour celle de leur famille, car ils sont très pauvres. Je reçois tellement d'appels d'autres étudiants qui font face aux mêmes problèmes et qui ont du mal à survivre.
Ce système de quotas a fait émerger une petite classe moyenne de Dalits dans la fonction publique, mais pas dans le privé. Les entreprises possédées par les Dalits sont très rares. Ceci serait le résultat d'une discrimination profonde, analyse la professeure Ashvini Deshpande, qui a fait une étude sur le sujet.
Cette discrimination peut venir des clients, des propriétaires ou des banques. Nous suspectons que cela vient des trois, car quand une société discrimine une population, elle le fait à tous les niveaux. Cela ressemble beaucoup à ce que vivent les Noirs aux États-Unis.
Selon ces recherches, 40% des entreprises tenues par les Dalits ne comptaient qu'un seul employé.
Un reportage signé Sébastien Farcier à New Delhi. Je vous vois opiner du chef Thomas Piketty. C'est un pays que vous connaissez bien. Vous nous rappeliez tout à l'heure que vous y étiez rendu souvent pour suivre les travaux d'Esther Duflo sur le terrain et d'Abhijit Banerjee.
Oui, j'ai été plusieurs fois à Abhijit Banerjee dans sa famille au Bengale occidental, à Calcutta. C'est un pays, j'ai vraiment essayé de mieux le comprendre au fil des ans et dans le chapitre que je consacre à l'Inde, j'essaie de condenser beaucoup de lectures pour essayer de montrer, essayer de mieux comprendre les évolutions. Je voudrais dire que ce système de quotas qui ont essayé de mettre fin à des discriminations très anciennes contre des groupes discriminés et défavorisés ont eu des effets positifs mais ne suffisent pas. C'est-à-dire que parfois, malheureusement, ces systèmes de quotas ils ont un peu servi aussi d'excuse pour les élites indiennes, parfois pour ne pas financer les services sociaux de base, école, éducation, santé qui restent encore aujourd'hui très complètement sous-financés en Inde, notamment par rapport à la Chine. Alors malgré tous les problèmes du système totalitaire chinois et tous les immenses mérites de la démocratie, de la grande fédération démocratique qu'est l'Inde, qui pour moi est un modèle pour l'avenir, qui va devenir la première puissance démographique mondiale et une puissance démocratique qui, je pense, aura un effet considérable dans l'avenir du monde. À condition de savoir mobiliser des ressources dans les services sociaux de base que pour l'instant les élites indiennes n'ont pas mobilisé. Et finalement ce système de quotas a un peu servi de jambe de bois. Il fallait les mettre en place parce que il y a ce qui est très très émouvant et très 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 perturbant aussi pour nous dans l'histoire de l'Inde, c'est qu'il y a quand même cette tentative de par les moyens de l'état de droit de mettre fin à des inégalités anciennes, des discriminations anciennes, issues d'un régime de caste qui est très ancien, qui est donc les inégalités existaient en Inde bien avant la colonisation britannique, évidemment, mais le colonisateur britannique, en mettant pendant 70 ans ces castes dans des boîtes, les a déjà rigidifiées. Donc moi, j'essaye aussi dans ce livre de remonter aux origines de ce système pour montrer que le système des inégalités statutaires qui existait en Inde avant la colonisation britannique n'était pas forcément très différent de ce qu'on avait dans des sociétés d'ordre d'anciens régimes européens, et que c'est aussi la rencontre avec la puissance coloniale britannique qui a mis tout ça dans des boîtes, qui s'est mis à distribuer des droits et des devoirs en fonction des appartenances de chacun pendant des dizaines et des dizaines d'années, qui a fini aussi par rigidifier, par créer des conflits durables, dont l'Inde indépendante à essayer de se sortir par les moyens de l'état de droit. Ces moyens sont insuffisants, mais en même temps, il y a des leçons pour nous, parce que on essaye dans les sociétés occidentales, en Europe ou dans d'autres sociétés, dans d'autres parties du monde, en Amérique, en Afrique, parfois on se refuse à des systèmes de quotas ou des systèmes de discrimination positive, qui pourtant peuvent être nécessaires. On le voit sur les inégalités hommes-femmes en politique, on l'a vu en Inde aussi, où des systèmes de quotas ont permis d'augmenter la part des femmes. Ça peut être vrai pour d'autres d'autres situations de groupes défavorisés. On le voit venir aujourd'hui, par exemple en France, avec des systèmes de points de boursiers qui rentrent dans les systèmes d'affectation dans le lycée ou dans l'enseignement supérieur. L'Inde pratique ça depuis des dizaines d'années. Alors, et il y a beaucoup de choses à apprendre à notre tour de ces expériences indiennes.
Thomas Piketty, l'une des castes que vous décrivez longuement, c'est la caste des Brahmanes. Comme ayant constitué au fil des décennies une vraie classe sociale dont les membres ont pu accumuler un patrimoine et transmettre à leurs descendants. C'est un chapitre très séduisant, une partie très intéressante de votre travail sur l'Inde, mais je voudrais qu'on arrive à vos propositions, parce que vous proposez un dépassement du capitalisme. Alors, on est plutôt en ce moment dans une intensification de ce capitalisme libéral, quand on voit le président américain Trump, et puis d'autres chefs d'État, Poutine même, c'est vraiment un système extrêmement difficile, dur pour les populations, souvent, même en Afrique, qui s'est mis en place, amoral, où les multinationales peuvent traverser les frontières sans difficulté. Qu'est-ce que vous proposez, vous?
Alors, parce qu'on l'a organisé comme ça. C'est-à-dire que d'abord, ce qu'il faut revoir complètement, repenser complètement, c'est justement le cadre légal dans lequel on a organisé la mondialisation et le capitalisme. Jusqu'ici, on a eu une approche fondée sur la libre circulation absolue des capitaux, des biens, des services, sans contrepartie en termes de régulation commune. Et je pense qu'aujourd'hui, depuis la crise financière de 2008, on commence à revenir sur cette espèce de grand basculement idéologique hyper-capitaliste qui a eu lieu dans les années 80-90. Le défi climatique, je pense, peut aussi être une des forces qui pousse au changement, même s'il faut
il
pas...
Il est un peu absent de votre livre.
Il faut pas attendre... Il arrive à sa place, c'est-à-dire qu'il arrive à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle. C'est vrai que quand j'analyse les sociétés du XVIIIe, XIXe siècle, l'enjeu climatique, alors peut-être qu'on aurait déjà dû s'en rendre compte plus tôt, mais il se trouve que ça jouait pas de rôle dans cette histoire. Par contre, non, il joue un rôle important dans mon analyse sur les périodes toutes récentes. Il peut jouer un rôle important à l'avenir, à condition de pas l'instrumentaliser non plus. C'est-à-dire que parfois, on oublie que si on veut vraiment dépasser le système économique actuel, il faut repenser le régime de propriété. Donc moi, je dis, voilà, le système de propriété privée sacralisée ne suffit pas. Il faut une propriété sociale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait, par exemple, une participation des salariés dans les entreprises très importante. En Allemagne, en Suède, on a la moitié des voix dans les conseils d'administration qui sont pour les élus des salariés. Il y a maintenant des propositions...
Ça n'empêche pas qu'il y ait des travailleurs pauvres.
Oui, ça suffit pas. C'est pour ça qu'il faut aller plus loin. Il faut aussi plafonner les droits pour les actionnaires individuels les plus importants. Il faut surtout la justice éducative qui est quand même la clé de l'égalité, de la redistribution. Et là, il y a une hypocrisie dans des systèmes éducatifs où en fait, on se retrouve à investir beaucoup plus de ressources sur des groupes sociaux qui sont déjà plus avantagés au départ. Donc là, c'est un des éléments très importants. La redistribution de la propriété, on en a parlé plusieurs fois dans cette émission, c'est-à-dire que le refus de diffuser la propriété, dans mon livre, je parle d'un héritage pour tous qui serait de 60% du patrimoine moyen. En France, ça donnerait 120 000 euros pour tous, la moyenne étant à 200 000 euros par adulte. Mais c'est quelque chose qui doit être repensé au niveau de chaque société pour avoir une vraie circulation du pouvoir et de la propriété. C'est-à-dire, dans des sociétés qui sont très éduquées, l'idée qu'une personne, parce qu'elle a fait fortune à 30 ans, devrait pouvoir continuer de prendre toutes les décisions dans une entreprise à 50 ans, à 70 ans, à 90 ans, est une idée quasi monarchique appliquée à l'économie qui ne fonctionne pas. Donc on a besoin de cette circulation du pouvoir et de la propriété, également au niveau international, avec un des accords beaucoup plus équilibrés, permettant notamment aux pays les plus pauvres de récupérer une partie des bases fiscales qui leur sont littéralement volées par les multinationales occidentales.
Merci Thomas Piketty, cette émission est terminée. Je rappelle le titre de votre livre, Capital et idéologie, aux éditions du Seuil. J'en recommande la lecture, c'est très facile, c'est long, il faut avoir du temps devant soi, mais c'est très abordable. Merci de nous avoir écoutés, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques. Au revoir.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.